Excellent réveil à tous, il est 7h sur France Culture. Voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'Europe, une fois de plus, désunie sur la politique migratoire. Quand l'Espagne porte secours à un demi-millier de personnes, l'Italie, elle, durcit sa politique contre les migrants.
Le Brésil n'accueillera pas la COP25 pour le climat l'an prochain.
Et avant même l'entrée en fonction du président d'extrême droite Jair Bolsonaro en janvier, le Brésil se rapproche des États-Unis et du climato-sceptique Donald Trump. Le Brésil, où l'équivalent d'un terrain de football disparaît toutes les 7 secondes en Amazonie. Les gilets jaunes se préparent à manifester de nouveau samedi à Paris. Pas question de discuter avec le Premier ministre. Édouard Philippe a annoncé l'un des porte-parole du mouvement. Quand François Ruffin, député de la France insoumise de la Somme, souhaite lui que la contestation des gilets jaunes gagne les métropoles.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, dans la question du jour, on reparle des gilets jaunes, mais les gilets jaunes à La Réunion. Pourquoi sont-ils si nombreux? On posera la question à François Hermet, qui est maître de conférences en sciences économiques à l'Université de La Réunion.
Après la Grèce et l'Italie, l'Espagne devient la principale porte d'entrée des migrants dans une Europe tentée de fermer ses ports. Nouvelle preuve de la crise migratoire s'il en fallait, 564 hommes, femmes et enfants ont été secourus hier au sud de l'Espagne par la garde civile. Ces migrants se trouvaient à bord d'une douzaine d'embarcations précaires. 3 cadavres ont été retrouvés en mer dans la soirée. L'Espagne a demandé de l'aide hier à ses voisins européens pour accueillir un bateau de pêche qui a secouru lui une douzaine de migrants jeudi dernier, des migrants qui disent préférer mourir que de repartir en Libye. Un bateau, persona non grata, à Malte et en Italie notamment. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Catherine.
Toujours pas de solidarité donc entre les 28, ce que déplore un rapport de l'Institut européen Jacques Delors. Et à Rome hier soir, le Parlement a adopté un décret très controversé pour durcir la politique d'immigration en Italie. Un texte voulu par Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, chef de la Ligue d'extrême droite.
Mais sans un pli, la Chambre des députés a en effet adopté le texte déjà voté au Sénat et dans les termes souhaités par le ministre de l'Intérieur d'extrême droite. Le gouvernement avait posé la question de confiance sur ce décret-loi qui n'a pas entamé la coalition de gouvernement, même si le mouvement 5 étoiles n'était pas favorable à ce durcissement. 14 de ses députés n'ont pas participé au vote. Le oui est massif. 369 contre 99 non. Désormais, les permis de séjour humanitaire accordés à un quart des demandeurs d'asile pour 2 ans seront remplacés par divers autres permis de protection sociale pour catastrophes naturelles dans le pays d'origine, des permis d'une durée inférieure de 6 mois à 1 an. Les expulsions sont-elles facilitées par une procédure d'urgence? L'évacuation des bâtiments occupés facilitée? L'utilisation des pistolets électriques généralisés? Matteo Salvini durcit donc l'accueil, mais il rend aussi plus difficile l'intégration. Les demandeurs d'asile seront regroupés dans de grands centres. Ils sont actuellement 146 000. On sait que le gouvernement est en guerre contre les initiatives prises par plusieurs villages dans le sud italien notamment, qui ont accueilli les demandeurs d'asile et souvent redonné vie à des lieux désertés, celui de Riace étant le plus célèbre. Durcissement donc à tous les niveaux. Le gouvernement italien en a profité pour annoncer qu'il ne signerait pas le pacte de l'ONU sur les migrations. Il consultera d'abord son Parlement.
Et ce pacte mondial pour les migrations, Marie-Pierre, doit être définitivement adopté les 10 et 11 décembre prochains à Marrakech. Un texte non contraignant qui divise l'Europe et qui crispe aussi au-delà des 28.
Et oui, pourtant, en juillet dernier, tous les pays de l'ONU, sauf les États-Unis de Donald Trump, bien sûr, l'avaient endossé. Mais depuis, à l'approche du sommet de Marrakech, censé approuver formellement ce texte, eh bien, les défections se multiplient. Pourtant, c'est un texte non contraignant, vous le disiez, un document qui prend acte du phénomène migratoire, recense différents principes issus de la Convention des droits de l'homme et avance une vingtaine d'objectifs très généraux pour mieux organiser les migrations, faciliter l'échange d'informations et d'expertise. Un pacte censé accroître la coopération internationale et qui propose des solutions sans rien imposer. Mais c'en est trop pour des gouvernements comme le hongrois ou le polonais qui s'en désolidarisent au nom de la souveraineté nationale. Depuis l'été, les volte-face de pays qui ont pourtant participé à la rédaction du document se multiplient. En Europe, l'Autriche, la République tchèque, la Slovaquie, la Croatie, l'Estonie ne l'approuveront pas. La Bulgarie devrait les rejoindre, la Belgique se déchire. Hors de l'Union, Israël, l'Australie, même la Suisse qui avait co-dirigé les travaux avec le Mexique ont pris leur distance. France. Les arguments populistes voulant faire croire qu'il s'agit du début de reconnaissance d'un droit à la migration gagnent du terrain en Allemagne, voire en France. Le terme même de migration devient un épouvantail et les législations nationales ne cessent de se durcir. Nous parlions de l'Italie, Catherine, mais un peu partout, les droits des migrants ont rétréci. Au Québec, dernier exemple en date, le nouveau Premier ministre entend réduire l'immigration de plus de 20% dans la province pour, dit-il, mieux intégrer.
Marie-Pierre Véraud, merci pour toutes ces explications. À 3 jours de l'ouverture de la 24e conférence des Nations Unies sur le climat en Pologne, le Brésil renonce, lui, à accueillir la COP25 l'an prochain. Officiellement, pour des raisons budgétaires, mais pour les organisations de défense de l'environnement, ce n'est pas l'argent qui pose problème, c'est plutôt l'envie d'organiser un tel événement en 2019. Au 1er janvier, Jair Bolsonaro deviendra officiellement président du Brésil. Ce climato-sceptique d'extrême droite estime que les pays étrangers cherchent à empêcher le Brésil de tirer parti de ses ressources naturelles, en Amazonie notamment. Si l'actuel président Michel Temer n'a jamais considéré l'écologie comme une priorité, la déforestation en Amazonie n'est pas prête de s'arrêter, Anne Vigna.
Au Brésil, les chiffres impressionnent toujours. En un an, un peu moins de 8000 km² de forêts, surtout en Amazonie, ont été déforestés. Pour comprendre ce que cela représente, Greenpeace a pris l'image d'un million de terrains de football. Si ces données sont bien à relier avec l'immensité du pays, elles sont pourtant très préoccupantes. Près de 20% de la superficie de l'Amazonie est désormais perdue. Pour les spécialistes, on approche là aussi d'un point de non-retour. La grande forêt pourrait ne plus se régénérer si elle est trop déforestée. Greenpeace a donc listé une série de mesures urgentes à mettre en œuvre, détaillées par l'un de ses porte-parole, Marcio Astrini.
Pour réduire la déforestation au Brésil, il faut d'abord s'attaquer aux causes de la déforestation. Donc le message ne doit pas être de pardonner les crimes écologiques, il doit être centré sur l'objectif de zéro déforestation et de punition totale des crimes. Deuxièmement, il faut prendre des mesures concrètes. Par exemple, augmenter les sanctions pénales, ne plus promouvoir d'amnistie, créer davantage d'aires protégées et de territoires autochtones, et valoriser ceux qui protègent la forêt.
Problème, ces mesures sont aux antipodes des projets du prochain président qui prend ses fonctions dans un mois. Jair Bolsonaro a promis au contraire de limiter le pouvoir des agences qui contrôlent et sanctionnent la déforestation et de réduire au maximum les territoires indigènes.
Jair Bolsonaro qui veut placer le Brésil avant tout. Il rencontre aujourd'hui John Bolton, proche conseiller de Donald Trump, le président des États-Unis, qui ne cesse lui de vanter les bienfaits de l'America First, l'Amérique d'abord. Entre les deux hommes, une même vision du continent américain, avec le Venezuela du socialiste Nicolas Maduro dans leur viseur notamment. Enjeu aussi pour les États-Unis, faire du Brésil un allié dans la guerre commerciale de Washington contre la Chine. Les États-Unis contre Pékin, la question sera par ailleurs au menu d'un dîner de travail entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping qui se retrouvent en Argentine pour le G20, J-1 avant le sommet où Donald Trump doit aussi rencontrer Vladimir Poutine. Un entretien que le président américain menace d'annuler, très préoccupé, dit-il, par l'escalade des tensions en mer Noire après un accrochage dimanche entre les marines russes et ukrainiennes au large de la Crimée. Hier, le président ukrainien Petro Poroshenko a demandé aux pays membres de l'OTAN et notamment à l'Allemagne, de déployer des navires en mer d'Azov pour soutenir Kiev dans son bras de fer avec Moscou. Et à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, deuxième jour de vie aujourd'hui sous la loi martiale. Incompréhension des habitants de la région de Kharkov où vivent 1 200 000 Ukrainiens à moins de 50 km de la Russie. Le reportage de Claude Bruyot.
Quelques rares poids lourds russes traversent difficilement le passage enneigé sous les regards méfiants des gardes-frontières ukrainiens. Arkady, 52 ans, métallurgiste ukrainien frontalier, ne décolère pas contre cette loi martiale dévastatrice pour les familles partagées entre deux pays.
Non, bien sûr, ce n'est pas normal. Nos deux peuples sont liés entre eux, notamment par des relations familiales. Et maintenant, quelqu'un vient briser ces relations.
Également originaire de Kharkov, ancien combattant dans le Donbass, il y a, âgé de 30 ans, s'est inscrit volontairement sur la liste des réservistes de l'armée.
Je suis en contact avec le commandement qui se trouve sur la ligne de front. Il y a une escalade, une aggravation. On ne prévoit pas d'apaisement. Il nous faut des ressources, des forces.
À la force, Yelena, 20 ans, étudiante, oppose la réflexion. Elle a du mal à se convaincre du bien fondé de cette loi martiale.
Il y a le danger du côté russe, vraiment, et l'instauration de la loi martiale peuvent nous protéger, mais je ne comprends pas comment ça doit fonctionner. J'ai l'impression que c'est artificiel et politique, mais j'ai l'impression que toute la guerre est artificielle et politique.
Le reportage de Claude Bruyot, envoyé spécial de France Culture à Kharkov, à la frontière entre l'Ukraine et la Russie.
7h10 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Les Gilets jaunes se préparent à manifester de nouveau samedi à Paris.
Et l'on ne veut pas revivre un samedi noir sur les Champs-Élysées, prévient la mairie de Paris. Elle estime à plusieurs centaines de milliers d'euros les dégâts de la manifestation du week-end dernier pour l'espace public. La mairie de Paris qui appelle au dialogue entre l'exécutif et les Gilets jaunes. Mais un porte-parole de ces contestataires, un gilet jaune reçu avant-hier par le ministre François de Rugy, refuse de rencontrer le Premier ministre Édouard Philippe d'ici samedi. Lui se joindra à l'Assemblée Générale du mouvement contestataire La Fête à Macron, prévue ce soir place de la République à Paris. François Ruffin, député de la France Insoumise de la Somme, souhaite que la contestation des gilets jaunes gagne désormais les métropoles. La France Insoumise, secouée par ailleurs par des tensions internes, après l'épisode politico-judiciaire sur les comptes de campagne le mois dernier, après l'exclusion de plusieurs membres de la liste pour les élections européennes, certains dénoncent des méthodes autoritaires de la direction du parti et une organisation chaotique, un flottement de la ligne politique. Résultat, le parti de Jean-Luc Mélenchon essuie toute une série de départs, Alexandra Dubouchereau.
Et au cœur des crispations, c'est d'abord la question de la stratégie du mouvement. Faut-il rassembler à gauche ou bien poursuivre la révolution citoyenne. Il y a un véritable clivage, note Georgi Kuzmanovic, l'un des trois insoumis exclus de la liste des européennes cette semaine.
Il y a deux gauches, une gauche, disons Mediapart, social-démocrate, plus proche des thèses de génération ou de Glucksmann, et une autre qui est républicaine, souverainiste, celle qui a fait le beau succès de 2017 et qui s'est beaucoup étiolée cette année.
Georgi Kuzmanovic a décidé de quitter la France insoumise dans la foulée de sa radiation de la liste, officiellement sanctionnée parce qu'il mettait les luttes féministes et LGBT en second plan. Il s'était aussi fait connaître en fustigeant ce qu'il appelle la bonne conscience de gauche sur l'immigration. Au moins maintenant, le message est clair, note Daniel Simonet, proche de Jean-Luc Mélenchon.
Le signe qui est donné, c'est sans doute un rappel de la position de l'avenir en commun, défendue aussi par nos députés qui se sont opposés à la loi asile-immigration. Donc il faut une liste qui est capable d'incarner ça.
Au compteur des départs, il y a aussi quatre femmes, dont Corinne Morel-Darleux, le visage de l'écologie chez les Insoumis. Elle a quitté la liste et le mouvement cet été pour elle, la tactique prenait le pas sur le projet.
La stratégie populiste qui a permis à la France insoumise d'élargir son socle électoral peut aujourd'hui être quelque chose qui lui nuit. On y perd en termes de radicalité de nos propositions, de clarté du projet. Et je crois que cette inquiétude, elle est partagée par beaucoup de monde aujourd'hui.
Et pour ces insoumis ou ex-insoumis, ce qui se cache derrière la question de la stratégie, c'est le problème de la démocratie interne. Ces derniers temps, certains ont commencé à dénoncer une gestion trop autoritaire de Jean-Luc Mélenchon et une place trop grande occupée selon eux par ses députés.
Faut-il interdire les fessées, tapes ou gifles aux enfants? La question sensible et récurrente est en débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale, avec d'un côté les opposants aux violences éducatives ordinaires et ceux qui voient dans leur interdiction une atteinte à la liberté des parents. À suivre dans le journal de 7h30, une journée de grève aujourd'hui à l'appel de la CGT chez EDF et dans toutes les entreprises du secteur de l'énergie. Une mobilisation qui survient dans le contexte de la programmation pluriannuelle de l'énergie et des annonces avant-hier d'Emmanuel Macron. Le temps de ce jeudi 29 novembre, pluvieux dans la moitié nord du pays, davantage d'éclaircies au sud. Les températures sont comprises ce matin entre 1 et 5 degrés des frontières de l'Est jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que dans l'arrière-pays provençal. Comptez de 4 à 10 degrés sur le reste du pays ce matin.
Merci Catherine Dutu.